RFI, 6h, à Paris, 5h, en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Julien et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce matin, droit de douane contre droit de douane. Après les taxes annoncées par Donald Trump hier contre ses partenaires commerciaux, la riposte ce matin du Canada, de la Chine et du Mexique. Ils contestent cette décision et promettent des mesures similaires. De son côté, l'Union Européenne retient son souffle. Elle pourrait bien être la prochaine cible du président américain. Reprise des négociations attendue demain entre Israël et le Hamas. Il doit être question de la deuxième phase de l'accord de trêve à Gaza. Hier, un nouvel échange d'otages et de prisonniers a eu lieu. On est à Tel Aviv dans un instant. Plus de 700 morts et 2800 blessés en RDC. Le gouvernement fournit un bilan des combats à Goma. Il alerte aussi, vous l'entendrez, sur la situation humanitaire sur place. Au sommaire également, journée meurtrière en Ukraine. Hier, des frappes russes ont visé les infrastructures énergétiques du pays. Et puis, c'est une forme de revanche sur la vie. Le dessinateur Luce, rescapé des attentats contre Charlie Hebdo, a remporté hier le Fauve d'Or, l'un des prix les plus prestigieux du monde de la BD.
Il l'avait promis, il l'a fait. Donald Trump impose des droits de douane à ses principaux partenaires commerciaux.
Entre 10 et 25% de taxes en plus pour la Chine, le Mexique et le Canada. Tous promettent de répliquer en imposant des droits de douane sur les importations américaines. Pékin va même contester la mesure de Donald Trump devant l'Organisation mondiale du commerce. En tout cas, le républicain semble satisfait. Il dit vouloir mettre fin aux importations de drogue aux États-Unis. Et il ne compte pas s'arrêter là, Karine Auton, puisque l'Union européenne pourrait bien être la prochaine sur la liste.
Donald Trump est mécontent de la balance commerciale des produits avec l'UE qui est en défaveur des États-Unis et il pourrait se venger sur certains secteurs qui dépendent de leurs clients américains pour une bonne partie de leur chiffre d'affaires. Prenez les viticulteurs français. Les États-Unis, c'est 22% des vins et spiritueux français à l'export, par exemple, et la filière a déjà eu un avant-goût de ce qui pourrait se passer lorsque Donald Trump avait mis en place une surtaxe de 25% sur le vin français et espagnol, pas italien, pendant 2 ans, suite au conflit entre Airbus et Boeing. Les ventes avaient alors baissé de 30%, jusque quand les droits de douane avaient été annulés par Joe Biden. Les médicaments français, irlandais, belges et allemands pourraient en souffrir aussi. Et puis Donald Trump a déjà laissé entendre que les Européens n'achetaient pas assez d'automobiles américaines. Il pourrait prendre des mesures de rétorsion contre les voitures allemandes et italiennes. Enfin, l'huile d'olive espagnole avait déjà été dans son collimateur au cours du premier mandat et elle est au cœur d'une bataille juridique à l'OMC. Il n'y a pas de raison que Donald Trump l'épargne cette fois-ci. Karine Auton, New York, RFI.
Et c'est dans ce contexte que Marco Rubio est arrivé il y a quelques heures au Panama. Le nouveau secrétaire d'État américain va s'entretenir avec le président José Raúl Mulino et se rendre sur le canal de Panama, objet de discorde entre les deux pays. Donald Trump a promis de reprendre le contrôle de ce carrefour maritime stratégique. Donald Trump, sur lequel tout le monde compte pour parvenir à la paix au Moyen-Orient. C'est ce que dit en tout cas Abdel Fattah Al-Sisi, le président égyptien, une déclaration alors qu'un nouvel échange a eu lieu hier entre Israël et le Hamas, le quatrième depuis le début de la trêve, 183 prisonniers palestiniens libérés par l'État hébreu contre 3 otages israéliens. Les discussions vont reprendre lundi entre Israël et le Hamas, négociations sur la deuxième phase de l'accord. En Israël, en tout cas, on suit les libérations avec inquiétude. De nombreuses familles attendent dans l'angoisse le retour de leurs proches. Reportage Place des otages à Tel Aviv de Muriel Paradon et Nicolas Benita.
Avec sa longue barbe blanche, son éternel t-shirt noir, Dani Miran, 79 ans, est une figure bien connue des Israéliens. Il vient sur la place des otages tous les jours et assiste à chaque libération retransmise sur écran géant.
Avec les autres familles d'otages, on est devenu une grande famille. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait des enfants de ma propre famille qui étaient de retour.
Dani Miran est lui-même père d'un otage, Omri, 47 ans, toujours détenu à Gaza. Son nom ne figure pas sur la liste des 33 personnes libérables dans la première phase de l'accord entre Israël et le Hamas.
Mon fils habitait à Nahal Oz. C'est un simple civil qui s'est fait kidnapper dans sa maison devant les yeux de sa femme et de ses deux fils. Eux n'ont pas été enlevés, ils sont dans un autre kibboutz maintenant. J'ai eu des nouvelles de mon fils 2 fois. Lorsque les premiers otages sont revenus... Quelqu'un m'a dit avoir vu Omri bien portant. La deuxième fois, c'était le 27 avril, quand le Hamas a publié une vidéo de lui. Je garde foi, je pense qu'il reviendra vivant, en bonne santé et en entier.
Dani Miran dit tenir grâce au soutien des Israéliens qui continuent de se mobiliser pour réclamer le retour de tous les otages. Muriel Paradon, Nicolas Benita, Tel Aviv, RFI.
Des otages israéliens libérés, donc côté Gazaoui, le point de passage de Rafah a rouvert pour la première fois hier. 50 malades ont pu être évacués vers l'Égypte. Reportage à écouter dans le journal de 8h.
5h05 en temps universel en République démocratique du Congo. Une semaine après l'offensive du M23 à Goma, le gouvernement congolais a tenu hier un point de presse.
Les combats entre le groupe armé soutenu par le Rwanda et les forces armées congolaises et leurs alliés on fait plus de 700 morts et 2800 blessés selon l'exécutif. Sur place, la situation humanitaire est catastrophique. L'aéroport international de la ville est fermé. Impossible aussi de naviguer sur le lac Kivu. Correspondance à Kinshasa de Pascal Moulégois.
773 morts et 2880 blessés, les chiffres sont proches de ceux déjà donnés par les Nations Unies, des victimes uniquement recensées dans les hôpitaux de Goma. Roger Kamba, le ministre de la Santé, prévient, beaucoup d'autres corps gisent encore au sol et les structures sanitaires de la ville sont débordées.
Malheureusement, on est obligé d'entasser parce que les tiroirs des morgues sont largement dépassés. Mais nous savons aussi que, par les informations que nous avons, parce que nous avons la Croix-Rouge aussi qui nous informe, il y a beaucoup de corps en putréfaction en pleine ville. Le chiffre que je donne, c'est un minimum que nous avons dans nos structures de soins.
Le porte-parole du gouvernement est lui revenu sur les combats à Goma. Des chars rwandais engagés, des tirs à l'arme lourde et légère, la capitale provinciale du Nord Kivu était un champ de bataille. Patrick Mouyaya explique qu'encore aujourd'hui, la population de la ville vit sous la menace d'exactions quotidiennes de la part du M23.
Deux morts sont restés dans les rues des Goma, qu'on a forcé le gomatracien de nettoyer. Et sûrement, doit y avoir des fosses communes, que les services rwandais se sont assurés de maquiller et d'évacuer les leurs. Vous pensez qu'il y a eu autant de morts, pourquoi? Parce qu'il y a eu des tirs aveugles, parce que énervés, parce que malmenés. Il ne faut pas oublier que tous ceux qui vivent à Goma en ce moment sont en insécurité. Ils sont intimidés. Si on vous demande d'exécuter une tâche A, nous les connaissons, la gâchette facile, vous êtes exécuté.
Les porte-parole assurent qu'une reconquête des grandes parties des Goma occupées s'organise avec le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu. Pascal Moulégua, Kinshasa. RFI.
Kinshasa, où depuis jeudi, une vaste opération de don du sang a été lancée. Des tentes ont été installées devant le palais du peuple. Objectif, obtenir 5000 poches de sang pour venir en aide aux militaires qui se battent dans l'est du pays. Au moins 15 morts hier dans le centre et l'est de l'Ukraine. La Russie a lancé une nouvelle série de frappes, une quarantaine de missiles et plus de 120 drones kamikazes. Les dégâts sont nombreux, notamment, comme c'est souvent le cas, sur les infrastructures énergétiques du pays. Emmanuel Chaz.
Comme toutes les nuits en Ukraine, les sirènes ont retenti pendant les raids aériens russes. Une nouvelle fois, plusieurs villes du pays ont été touchées lors de frappes hybrides de missiles et de drones, parmi lesquelles Kharkiv, où une femme est morte, Zaporizhia, Odessa, dont l'hôtel Bristol, fréquenté par la communauté internationale en plein centre historique de la ville, classé par l'UNESCO comme un site du patrimoine mondial en péril, a été touché. À Poltava, dans le centre de l'Ukraine, les recherches se poursuivent dans les décombres d'un bâtiment résidentiel, également touché par une frappe de missile. 9 personnes, dont un bébé, sont mortes et plusieurs dizaines ont été blessées. 400 secouristes étaient sur place. Pour Andriy Yermak, le chef du bureau présidentiel, cela montre que Moscou n'a, je cite, aucun respect pour aucun dirigeant du monde ni aucune nation. L'Ukraine accuse également la Russie d'avoir frappé une maison de retraite à Soudja dans la région russe de Koursk, dont une partie est sous contrôle ukrainien depuis août dernier. Cet établissement servait de refuge aux civils russes dans cette zone bombardée quotidiennement. Il serait une centaine à se trouver sous les décombres. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Sur le bombardement de cette maison de retraite, justement, la Russie accuse l'Ukraine d'en être responsable. Des milliers de manifestants hier au Royaume-Uni, rassemblement en soutien à une figure de l'extrême droite britannique, Tommy Robinson, emprisonné depuis plusieurs mois. Ses partisans ont marché vers Downing Street, souvent vêtus de casquettes Make England Great Again, en référence à Donald Trump.
Des manifestations aussi en Serbie. Hier, on commémorait les 3 mois de l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad. Il avait fait 15 victimes et entraîné avec lui un vaste mouvement de contestation contre la corruption.
Depuis le 1er novembre, les Serbes descendent en masse dans les rues, poussant même le Premier ministre à démissionner il y a quelques jours. Hier donc, les étudiants, à l'initiative des premiers rassemblements, ont à nouveau manifesté. Reportage de Laurent Rouy.
Une fois de plus, les étudiants ont lancé une immense manifestation après celle qui avait poussé le Premier ministre à la démission en début de semaine. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à bloquer les trois ponts de Novi Sad. Des protestataires venus de toute la Serbie, comme l'explique cette pharmacienne belgradoise.
À la station de péage, à l'entrée et à la sortie de Novi Sad, et tout le long du trajet sur l'autoroute, il y avait des colonnes de voitures et des embouteillages. Nous nous attendions à ce qu'il y ait beaucoup de monde, mais pas autant.
Les agriculteurs protègent le rassemblement de leurs tracteurs. Les avocats aussi ont rejoint le mouvement.
Notre nouvelle décision, c'est qu'il y aura 15 jours de grève. Ensuite, le barreau décidera s'il faut continuer. Il était très important que les gens se libèrent de leur peur. Et maintenant que ce mouvement est lancé, il sera très difficile de l'arrêter.
D'abord concentré sur la justice et contre la corruption, le mouvement prend une couleur de plus en plus politique, selon cette retraitée.
Ça ne nous intéresse pas de savoir qui est le président. On veut que les institutions fassent leur travail. Nous ne voyons qu'une seule solution, un gouvernement de transition et seulement ensuite des élections. Les élections sont impensables dans les conditions actuelles.
Pour l'instant, le président Vučić refuse tout gouvernement de transition. Il s'est donné 10 jours pour décider de l'organisation ou pas de nouvelles élections. Laurent Rouy, Novi Sad, RFI.
Direction Angoulême, avant de refermer ce journal. Angoulême et son 52e Festival International de la Bande Dessinée, c'est jusqu'à aujourd'hui. Hier, le jury a décerné son prix, le Fauve d'Or, et Sophie Torlotin, c'est un dessinateur français bien connu qui l'a remporté.
C'est un fauve au goût de revanche sur la vie pour Luz. Le dessinateur de 53 ans, qui avait échappé de peu à l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo, avait en effet décidé d'abandonner le dessin de presse pour se consacrer au 9e art.
Le dessin, il a failli disparaître. En même temps que les amis ont disparu, le dessin a disparu. J'ai cru qu'il n'y avait plus rien dans au bout de mes doigts. Et finalement, il est apparu pour... Évitez d'avoir des fantômes qui vous habitent, il faut les sortir sur le papier. Il faut dessiner énormément de gens que vous aimez. Et au bout du compte, on dessine plus de gens qu'on aime dans la bande dessinée que de gens qu'on aime dans le dessin de presse. C'est pour ça que je vais mieux. La bande dessinée m'a sauvé, c'est clair.
Son album primé, Deux filles nues, raconte l'histoire de l'Allemagne par le biais d'une toile de l'expressionniste allemand Otto Müller, peinte en 1919, acquise par un riche collectionneur juif, moqué par les nazis, spolié puis restitué après-guerre aux descendants d'Ismar Littmann. Luz réussit un tour de force graphique car toute cette histoire vraie est racontée du point de vue du tableau. Ovationné et très ému, Luz, qui est toujours sous protection policière, s'est étonné que Deux filles nues, qu'il pensait être un album historique, résonne autant avec la montée de l'extrême droite en France et dans le monde. Sophie Torlotin, Angoulême, RFI.
Et c'est à Angoulême où il est 6h13 que je vous laisse en compagnie de Julien Coquel-Rohem.
Merci Arthur Ponchelet, à tout à l'heure. Dimanche 2 février 2025, bienvenue à vous, RFI Matin, 3 heures d'information et à la une. Aujourd'hui, le gouvernement congolais qui confirme et même rehausse un peu le bilan donné par les Nations Unies après une semaine d'offensive du M23 soutenue par le Rwanda sur Goma dans l'est de la RDC. 773 morts, 2880 blessés, un chiffre qui ne prend en compte que les victimes enregistrées dans les hôpitaux. Kinshasa lance un appel au don de sang et dans le prochain journal, cap sur Bukavu dans le sud Kivu, où des civils rejoignent les rangs des milices Wazalendo alliées aux forces congolaises. Reportage à 5h30, temps universel, c'est dans moins de 20 minutes. L'actualité ce matin, c'est aussi cette promesse tenue de Donald Trump. Le président américain a signé hier le décret pour imposer des droits de douane de 25% au Mexique et au Canada et de 10% pour la Chine. La présidente mexicaine annonce des mesures de rétorsion. On en parle avec Gwendolina Duval, notre correspondante au Mexique. À 6h, temps universel. RFI Matin le dimanche, c'est aussi l'Afrique en marche. Et cette semaine, un collectif de femmes africaines mobilisées en France contre les mutilations génitales. Dans notre tour du monde des correspondants ce matin, tour d'horizon des diasporas chinoises à l'occasion du nouvel an lunaire. Et puis les sports, comme chaque matin, on retrouve Victor Missistrano dans une demi-heure. Mais d'abord, pour commencer, une note légère et acide qui ne va pas forcément avec le café du matin. Et puis c'est un peu tôt, mais hier, comme chaque premier samedi de février, on célébrait au Pérou la journée du Pisco Sour. Un cocktail désormais connu dans le monde entier à base d'une eau de vie, le Pisco, distillation de vin blanc. Au Pérou, c'est le gouvernement qui a décidé d'instaurer cette journée car le Pisco Sour est une fierté nationale. C'est aussi le sujet d'une âpre dispute avec le Chili. Les deux pays revendiquent la paternité de ce cocktail. Alors peut-on déterminer son origine et trancher une querelle qui remonte au début du siècle dernier? C'est ce qu'a essayé de faire notre correspondante au Chili, Marion Bellal, à Santiago. Reportage.
Il faut bien l'avouer, c'est le Chili qui a mis le feu en revendiquant le premier la paternité du Pisco en 1931. Depuis, c'est la guerre avec le Pérou, chacun revendiquant le label appellation d'origine. La discorde a été ravivée en décembre dernier puisque l'UNESCO a certifié l'authenticité d'un ensemble de manuscrits péruviens qui attestent la production et la commercialisation de Pisco entre 1587 et 1613. C'est la preuve la plus ancienne à ce jour qui établirait donc l'origine de cette eau de vie au Pérou. Mais dans les rues de Santiago, quand on demande d'où vient le Pisco, la réponse est immédiate.
Ah non, du Chili.
Eduardo, chilien et manifestement chauvin, nous confie les secrets de sa recette de Pisco Sour.
Ce n'est pas n'importe quel citron, il faut des citrons plus petits, qu'on appelle ici le citron de pica. Et bien sûr, un bon Pisco. Moi j'utilise du chilien.
À proximité, Horacio, qui est d'ailleurs en pleine dégustation d'un Pisco Sour, est en désaccord.
Le Pisco péruvien, il est plus doux, donc pour un Pisco Sour, il est plus agréable. Notre Pisco chilien, il est plus puissant pour ainsi dire.
Dans le quartier très touristique de L'Astaria, si on veut boire un Pisco Sour, ce sera au restaurant Chipe Libre. Et il est géré par un Français, Jérôme, installé au Chili depuis 26 ans, qui pourrait bien avoir trouvé la réponse à cette discorde chilo-péruvienne.
C'est chi de Chili et pé de Pérou. Et en fait, l'idée de Chipe Libre, c'est que le Pisco en a eu assez, il en a eu marre de ses batailles. Donc il a fait sa révolution, il a annexé le sud du Pérou et le nord du Chili, il a créé sa propre république.
Pour ce spécialiste, chaque pays a du bon Pisco, mais avec quelques différences.
Par exemple, au Chili, on passe le Pisco dans des barriques de bois. Au Pérou, le bois est interdit. On ne travaille pas non plus les mêmes raisins.
Si cette querelle est bien sûr culturelle, l'enjeu est aussi économique. Pour le Chili, les exportations de Pisco rapportent presque 3 millions d'euros. Pour le Pérou, ça grimpe à près de 7 millions. Depuis son restaurant indépendantiste, Jérôme regrette que les deux pays n'unissent pas plus leurs forces pour faire connaître cet alcool au-delà de leurs frontières.
Malheureusement, aujourd'hui, ce qui bloque le développement du Pisco, c'est cette guerre ridicule entre le Pérou et le Chili. Ils dépensent leur budget dans des procès et des avocats.
Aujourd'hui, la majorité des exportations des deux pays se font vers les États-Unis, le Japon et l'Espagne. Alors à savoir tout de même si vous en trouvez en France, le Pisco pur, péruvien ou chilien, c'est entre 30 et 45 degrés d'alcool. Marion Bellal, Santiago, RFI.
Voilà, avec modération donc, Marion Bellal et la guerre du Pisco Sour entre le Chili et le Pérou. Notre reportage international à retrouver sur RFI.fr. L'actualité politique en France, comme chaque dimanche et cette semaine, nous allons nous intéresser à Emmanuel Macron qui, depuis le début de l'année, est beaucoup plus présent dans le paysage. Depuis la dissolution, le président ne tient plus les manettes de la politique gouvernementale, mais il n'a visiblement pas renoncé à se faire entendre. Bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Julien.
On a l'impression qu'Emmanuel Macron essaie de se refaire une place dans le débat national.
C'est exactement ça. Le président cherche comment retrouver un peu d'influence après une période durant laquelle il a été forcé de prendre de la distance. Son entourage a même théorisé cette posture avec une formule. Le président préside et le gouvernement gouverne. Emmanuel Macron a changé de stratégie. Son objectif est aujourd'hui d'essayer de se rappeler au bon souvenir des Français. Et il le fait de manière parfois un peu débridée, allant même jusqu'à critiquer la politique gouvernementale. Par exemple, quand les sportifs français ont protesté contre les coupes budgétaires dans leur secteur, dans une tribune, Emmanuel Macron leur a apporté son soutien. Première piste contre les choix du Premier ministre, suivi quelques jours plus tard par une autre saillie. En déplacement dans le nord de la France, il a défendu sa politique pro-entreprise qui risque d'être mise à mal par l'augmentation de la fiscalité envisagée pour faire rentrer de l'argent dans les caisses et combler les déficits.
On a aussi vu Emmanuel Macron sur TikTok.
Oui, dans une vidéo publiée pour répondre à un influenceur qui se plaignait d'avoir été verbalisé pour avoir payé au péage avec son téléphone. Une préoccupation pas très jupitérienne, porte porté par un président devenu porte-parole des mécontents, sans filtre, peut-être un peu trop connecté. Cet épisode insolite a étonné même dans son camp. Joker a répondu à un macroniste de la première heure sollicité pour réagir sur cette vidéo qui s'inscrit en fait dans une démarche de rapprochement avec les Français, illustrée encore cette semaine par une visite surprise et sans la presse dans une petite ville de l'Aisne pour aller à la rencontre des habitants autour d'un café. Dans l'entourage du président, on emballe tout ça dans un récit. Emmanuel Macron aurait la volonté de s'occuper de plus en plus du quotidien de ses compatriotes, loin du protocole.
Et est-ce que cette stratégie fonctionne ?
Pas pour le moment, la cote de popularité d'Emmanuel Macron n'en finit pas de chuter. Mal engagé en 2022 après des législatives qui ne lui avaient permis d'obtenir qu'une majorité relative, son deuxième quinquennat a complètement dérapé avec la dissolution que les Français lui reprochent. Mais Emmanuel Macron cherche encore et toujours comment remonter la pente.
Valérie Gasse, merci beaucoup. Dénonce une calomnie, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, qui n'a pas tardé à réagir alors qu'il y a quelques heures, la Maison-Blanche de Donald Trump a affirmé que les cartels de la drogue avaient fait alliance avec le gouvernement mexicain, évidemment sans fournir de preuves. Donald Trump a imposé hier des droits de douane au Canada, à la Chine et au Mexique, accusant les trois pays, et notamment son voisin du Sud, de laisser entrer de la drogue sur le territoire américain. Mais au-delà des fantasmes, de quoi parle-t-on quand on parle des cartels mexicains? Notre livre international nous en donne un aperçu ce matin, publié par le journaliste Frédéric Saliba. Arrivé au Mexique au milieu des années 2000, il y est resté 16 ans, dont 14 comme correspondant pour le journal Le Monde, et il a couvert tous les sujets ayant trait au narcotrafic. Frédéric Saliba nous parle de son ouvrage « Cartel, voyage au pays des narcos » avec Christophe Paget.
Frédéric Saliba, bonjour.
Bonjour.
Peu de temps après votre arrivée au Mexique en 2006, Felipe Calderón, lui, arrive au pouvoir. Il déclare une guerre au narcotrafic. C'est une spirale de violence ahurissante que vous décrivez.
Felipe Calderón est mal élu, en fait. Il a une marge de 0,5% seulement des voix. Et donc, il manque de légitimité. Il s'appuie sur les militaires, l'armée étant l'institution la plus respectée par les Mexicains, pour déclarer la guerre contre un vieux fléau mexicain qui est le narcotrafic. En déployant une force frontale contre le crime organisé, les narcotrafiquants qui étaient déjà en guerre entre eux déclarent la guerre aussi au gouvernement. Ils s'arment d'armes lourdes, de lance-roquettes, de drôles bombardiers. Donc ce pays merveilleux commence à avoir des luttes armées dignes parfois de scènes de guerre.
Et en fait, vous décrivez une contagion de la violence à toute la société.
C'est ce que j'appelle dans mon livre l'effet cafard, qui est une expression d'expert en sécurité publique mexicain. Quand vous traitez une maison, si vous ne traitez pas les maisons voisines, la secte se déplace. Quand je suis arrivé, il y avait 5-6 États concernés par ces violences. Aujourd'hui, on parle de 27 États, voire 28 sur 32. La violence s'est disséminée, ce qui a créé, donc, sur le plan de la violence, une véritable hécatombe, et sur le plan des drogues, un développement notamment des drogues de synthèse et du nombre d'overdoses liées à ces drogues.
Et de fait, paradoxalement, cette guerre contre les narcotrafiquants a causé une augmentation du nombre de cartels.
Felipe Calderón s'est focalisé sur l'arrestation de grands barons de la drogue, ayant une forme de retentissement médiatique et politique. Le seul problème, quand vous décapitez d'une certaine manière un cartel de la drogue, vous créez des guerres intestines, et donc les cartels ont tendance à se fragmenter en gangs plus petits, mais aussi plus violents, dans l'espoir de pouvoir s'imposer face à leurs concurrents.
Ce que vous racontez aussi, c'est qu'il y a eu une alternance politique au Mexique en 2000, et ça crée un déséquilibre dans le pays par rapport au trafic de drogue.
Dans les années 2000, c'est l'achèvement d'un processus démocratique. Le Mexique a été contrôlé par un parti hégémonique, on parlait de dictature parfaite. Donc la démocratie arrive, le pluralisme politique arrive. Et en fait, cet avènement de la démocratie a un effet pervers, c'est qu'elle fragilise l'État central en mettant des nouveaux acteurs à la tête de l'État, alors que le politique contrôlait d'une certaine manière le narcotrafic pendant ces années de dictature parfaite. Il y a un phénomène inverse qui se crée, en tout cas localement. Le narcotrafic commence à contrôler dans les régions de production et de transport, la sphère politique, nommant ces hommes à la tête des mairies notamment, et terrorisant la population locale pour maintenir une certaine omerta.
Vous racontez aussi les coulisses de votre travail de journaliste. Comment est-ce qu'on travaille sur le narcotrafic au Mexique.
Nous parlons de conflits de basse intensité. Vous ne savez pas d'où les coups partent. Il existe au Mexique quand même des narco-avocats, des narco-juges, des narco-policiers. Et figurez-vous qu'il existe aussi des narco-journalistes. Et donc, nous évoluons dans une atmosphère assez trouble où il faut énormément enquêter, notamment sur ses propres sources, pour pouvoir travailler dans des conditions sereines, non seulement pour ma sécurité, mais plutôt pour la sécurité des gens qui m'informent, qui, eux, sont exposés directement sur le terrain. Moi, étant protégé, j'avais une certaine protection, en tout cas du moins symbolique, alors que mes confrères mexicains et mes sources sur le terrain sont directement exposés. Et d'ailleurs, j'ai certains confrères qui ont perdu la vie.
Quels sont les rapports du Mexique et des Mexicains avec les États-Unis? Parce que ce que vous racontez, c'est que la DEA, la célèbre agence antidrogue américaine, arrêtait les trafiquants que le Mexique leur désignait et laissait ceux qu'ils protégeaient.
C'est un petit peu l'impression que j'ai, moi, après 18 ans tout de couverture de ce conflit. C'est qu'en effet, on est dans un jeu assez trouble où l'État lui-même, on peut se poser la question de savoir s'il souhaite éradiquer le narcotrafic ou tout simplement le contrôler. On le voyait d'ailleurs par rapport aux arrestations. Les membres du cartel de Sinaloa étaient rarement neutralisés. Souvent, il s'agissait de membres dissidents ou déjà sortis un petit peu de la sphère dirigeante du cartel. Et donc, on s'est aperçu qu'en effet, il y avait des complicités à l'intérieur de l'État mexicain. Et c'est d'ailleurs le gros sujet, je pense, aujourd'hui au Mexique. Le ver est dans la pomme administrative de ce pays. Comment arriveront-ils à faire une opération main tremble comme on l'a pu voir en Italie, par exemple?
Frédéric Saliba, merci.
Le journaliste Frédéric Saliba avec Christophe Paget et son livre Cartel, voyage au pays des narcos, publié aux éditions du Rocher.
Écoutez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
Et chaque dimanche, RFI Matin vous propose un avant-goût de l'émission L'Atelier des médias. Bonjour Steven Jambeau.
Bonjour Julien.
Steven, vous êtes à Brest aujourd'hui, où se tient depuis mercredi et jusqu'à ce soir, longueur d'onde, un festival entièrement consacré à la radio et à l'écoute.
Ah oui Julien, dans cette ville de Bretagne, à la pointe ouest de la France, se déroule chaque année depuis plus de 20 ans un festival de radio, et notamment de ce que l'on peut faire de plus élaboré sur les ondes, en particulier le documentaire sonore et la fiction radiophonique.
Et justement, dans votre émission, vous recevez un spécialiste de ces genres radiophoniques exigeants.
Christophe Deleu est professeur en sciences de l'information et de la communication. C'est aussi un auteur de documentaires et de fiction sonore. Il a co-dirigé un ouvrage collectif qui vient de paraître, dont le titre est « Le désir de belle radio aujourd'hui ». Ce livre met à l'honneur ces deux genres, donc. Il explique aussi comment l'évolution technologique et l'arrivée du podcast ont démocratisé la production, la diffusion et la consommation de contenu audio de qualité. Christophe Deleu y voit même un risque que toutes les belles ondes sonores produites ne trouvent pas d'oreilles sensibles pour les écouter.
En fait, aujourd'hui, tout le monde peut créer une fiction, créer un documentaire, avec très peu d'argent, même avec son téléphone, j'allais dire. Et ça ne coûte quasiment rien. En fiction, ça coûte un peu plus cher si vous voulez payer les comédiens. Mais en fait, et donc il y a une réduction des coûts. Et voilà. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs que c'est difficile aujourd'hui, le paysage de la belle radio, même du documentaire, de la fiction. C'est un univers en fait qu'on ne connaît pas, on ne peut pas fixer les limites, il est partout. C'est comme si on avait vécu une véritable révolution scientifique. On ne peut plus aujourd'hui véritablement faire la recension exhaustive de tout ce qui se fait en documentaire, en fiction, même si ça c'est récent, ça a 20 ans. Personne pour l'instant ne peut faire ce travail-là. Ça pourrait peut-être être fait, mais on n'arriverait même pas, c'est une tâche impossible, ce serait des millions et des millions de flux RSS. L'enquête serait quasiment impossible. Alors qu'il y a 20 ans, on aurait très bien pu faire une espèce de panorama exhaustif de qui fait de la fiction, qui fait du documentaire. C'est formidable, mais en même temps, ça place les auteurs dans un inconnu, puisque quand on fait quelque chose, peut-être personne ne l'entendra. C'est un peu le paradoxe. On peut faire tout ce qu'on veut, mais peut-être on ne sera pas entendu.
La radio de création à l'ère du podcast, c'est le titre de l'Atelier des médias aujourd'hui, Steven.
Et j'ai l'habitude de dire que l'Atelier des médias, c'est une émission de radio diffusée d'abord en podcast. Rendez-vous donc dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée ou à 11h10 TU sur RFI.
Merci Steven et bonne journée à Brest au festival Longueur d'onde. Vous avez vraiment beaucoup de chance.
Merci Julien, il ne manque que vous.
Avec le son des mouettes à Brest avec Steven Jambeau, qu'on salue bien. Bientôt 5h30 en temps universel et l'info qui revient dans moins d'une minute sur RFI. À tout de suite.
Bonjour, c'est Juan Gomez. La Guinée se dirige-t-elle vers un nouveau report de la fin de la transition? Le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que toutes les élections ne pourront pas se tenir cette année. Pourtant, le général Doumbouya avait promis un référendum et des élections générales en 2025.
Appel sur l'actualité 33 9 693 693 70.
Juan Gomez, avec vous au téléphone lundi à partir de 8h10 TU.
RFI.